Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Alors, la Commission, je parlais tout à l'heure d'une forme d'exécutif, mais il est vrai que la Commission est tout de même une instance hybride, puisque non seulement on pourrait l'assimiler à un exécutif, mais elle a parfois un rôle même de législatif, et elle peut aussi avoir un rôle judiciaire. Donc, dans notre comparaison, je crois qu'il faut quand même tenir compte de la spécificité de la Commission. Mais sur ce point, partant d'un marché, on aurait pu se demander à l'inverse s'il ne fallait pas laisser jouer la concurrence fiscale. Pourquoi vouloir absolument harmoniser? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aux entreprises ou même aux particuliers, choisissez le modèle qui vous est le plus avantageux? Est-ce qu'on ne devrait pas laisser jouer la loi du marché? Faut-il véritablement, je dirais, dans un intérêt général que la Commission intervienne?
Alors évidemment, donc, comme vous le soulignez, la Commission a un rôle hybride. En tous les cas, c'est elle qui a l'initiative en matière de proposition de directive. Et le débat que vous soulignez, donc concurrence ou versus convergence, oui. C'est un débat qui a été très vif au début des années 90. Et en réalité, autant dans les années 90, jusqu'au début des années 90, c'est le thème de l'harmonisation fiscale qui prédominait, c'est-à-dire qu'il y avait des forces qui poussaient à ce que la Commission propose des solutions permettant d'aller vers une harmonisation fiscale. Autant le débat auquel vous référez a émergé donc au début des années 90 et où l'on est passé en quelque sorte du thème de l'harmonisation fiscale au thème de la coordination des politiques fiscales. Il y a eu une sorte de glissement sémantique en la matière et qui a révélé en fait un changement stratégique de la Commission européenne sur le sujet. En ayant à l'esprit que la concurrence fiscale n'était pas un obstacle au fonctionnement du marché intérieur, mais que sur certains points, il fallait que les politiques fiscales soient coordonnées de manière à ce que le marché intérieur puisse fonctionner au mieux. C'est-à-dire qu'en gros, la Commission est passée d'un objectif d'harmoniser les États membres. Mais il faut dire que ce changement d'objectif est allé avec l'élargissement de l'Europe, parce que voilà, l'harmonisation est extrêmement difficile.
Dont les situations économiques sont très
extrêmement différentes. Et précisons aussi que dans son souci, dans leur souci de conserver leur souveraineté fiscale, les États membres ont instauré la règle de l'unanimité pour l'adoption des dispositions fiscales. Et le traité de Lisbonne a tenté, dans les négociations sur le traité de Lisbonne, il y a eu des tentatives de passer à une règle de majorité importante, mais de majorité à la place de l'unanimité, et ces tentatives se sont révélées vaines. On reste sur la règle de l'unanimité.
Oui, donc ce que vous disiez au début sur la résurgence de la souveraineté et du pouvoir régalien en matière fiscale, là est très net.
C'est réaffirmé. Que
refuser la majorité pour s'en tenir à l'unanimité, là c'est bien insisté sur ce pouvoir donné à chaque État.
Voilà. Alors, c'était difficile déjà lorsqu'il y avait 6 ou 9 ou 12 États. Alors, à 27, les choses deviennent extrêmement compliquées. Donc, la Commission s'est placée dans une situation de simplement proposer des solutions ponctuelles là où il y a des points de frottement. Donc, on a considérablement réduit les ambitions. Mais il y a quand même des ambitions fortes. Alors, simplement, au plan historique, il y a eu un premier. La Commission a agi de manière assez forte en 1990, un paquet fiscal, avec une directive mère filiale qui permet d'éviter les retenues à la source lorsqu'une mère verse des dividendes à sa filiale qui est située dans un autre État de l'Union européenne. Donc là, une prise en compte quand même de la notion de groupe dans l'Union européenne. Il y a une directive fusion qui enjoint aux États membres d'accorder un régime fiscal de faveur lorsqu'il y a une fusion transfrontalière. Oui. Donc c'est une directive de 90 aussi, donc qui a fait partie de ce paquet fiscal de 90 qui a été modifié en 2005. Alors ce qui est paradoxal, c'est que on avait l'instrument fiscal, mais on n'avait pas l'instrument juridique, puisque la directive fusion a traîné énormément. Donc on avait un très bel instrument fiscal, mais qui n'avait aucune utilité, puisqu'il n'y avait pas l'instrument juridique qui permettait. Et puis il faut dire aussi qu'aujourd'hui, les fusions transfrontalières sont quand même très C'est un outil qui n'est pas utilisé.
Alors, il y a la question qui s'est posée aussi des transferts de sièges sociaux, autrement dit, de la libre circulation des personnes morales et non plus des personnes physiques. Oui. Alors, souvent, on a dit que l'obstacle était un obstacle fiscal.
Oui, alors là, il y a un obstacle fiscal, effectivement, qui tient au transfert d'actifs. Donc, la directive fusion indique bien qu'il ne peut pas y avoir d'obstacle fiscal. Disons que la fusion ou que le transfert de siège social même n'entraîne pas les conséquences d'une cessation d'entreprise comme c'était le cas auparavant. Au plan fiscal, qu'est-ce que ça veut dire cessation d'entreprise? Je vais directement au but, oui. C'est la taxation des plus-values latentes, oui. En fait.
Voilà. – Qui est la terreur. –
Voilà, bon, et donc effectivement, le coût fiscal est tellement énorme que évidemment tout le monde renonce. Alors là, il y a une controverse entre la Commission et les États membres, c'est que la directive dit… pas de taxation des actifs lorsqu'il y a un transfert de siège social, pas de taxation des actifs qui restent dans l'État de départ, dans l'État membre de départ. Les États membres en ont conclu assez logiquement que ça les autorisait à taxer les actifs qui quittaient l'État pour aller rejoindre le territoire du nouveau siège social. Et dans une communication de 2006, la Commission, donc c'est une communication, donc il n'y a pas de valeur législative, la Commission dit pas du tout, c'est pas parce que la directive dit que on ne peut pas taxer les actifs qui restent que pour autant vous avez le droit de taxer les actifs qui sortent.
Oui, c'est d'ailleurs une belle question d'analyse juridique, par analogie à contrario.
Et dans la communication de la Commission, il y a référence à des arrêts de la Cour de justice qui sont pris en matière d'impôt sur le revenu, mais qui, selon la Commission, seraient transposables en impôt sur les sociétés pour éviter de taxer les actifs qui sortent. Donc il y a cette controverse. Mais il est évident que les entreprises, face au risque d'être taxées de cette manière, évidemment, ne tentent pas le coup.
Mais alors là, vraiment, on a une contradiction avec les objectifs même de l'Union européenne.
Absolument.
Et alors ça crée une forme d'inégalité, d'ailleurs, indéniablement, parce que les taxations peuvent être très différentes d'un pays à un autre.
Absolument, absolument. Là, on est dans une situation où vraiment c'est un frein au fonctionnement du marché intérieur.
Alors, autre problème aussi qui s'est posé, c'est l'impôt sur les sociétés, puisqu'il y a certains États de l'Union pour lesquels il n'y a pratiquement pas d'impôt sur les sociétés. Alors, c'est un problème complémentaire. Mais au-delà du transfert du siège, il est tellement facile de créer une filiale.
Bien sûr.
On ne courrait même plus le risque avec des montages. Et alors là, est-ce qu'on doit conserver cette disparité en considérant qu'elle permettra progressivement de trouver un équilibre, puisque les pays, on pourrait dire émergents, retrouveront progressivement une croissance alors que les autres subiraient, ou est-ce qu'on doit immédiatement vouloir une unification et considérer que c'est un seul et même ensemble fiscal? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la Commission doit se montrer plus active dans ce domaine, alors, ou laisser faire presque la nature?
Non, la Commission se montre très active sur le sujet à travers un projet qui est le projet d'assiette commune consolidée d'impôt sur les sociétés. Axis. Et donc le projet de la Commission est d'autoriser les entreprises qui ont des établissements ou des filiales sur plusieurs États membres calculer leur impôt sur les sociétés sur une base commune, c'est-à-dire avec un ensemble de règles communes, uniques donc, hein, et de manière consolidée, c'est-à-dire de pouvoir agréger les résultats de toutes les entités du groupe, ce qui serait effectivement une simplification.
Et ça, c'est la société mère, elle-même, qui serait le...
Alors, là, il y a plusieurs solutions, mais effectivement, celle qui émerge, c'est plutôt celle de la société mère, sachant qu'ensuite, l'impôt serait réparti entre les États sur lequel il a été, été généré.
Oui, parce que
chaque État membre, voilà. Il n'est pas, la question a été posée, est-ce qu'il ne faut pas faire de l'impôt sur les sociétés un impôt européen, qui irait, européen, qui irait au budget de l'Europe? Cette solution a été écartée parce que sinon, politiquement, le sujet était complètement, complètement mis de côté.
L'Europe fiscale, ça pourrait être aussi les impôts perçus par l'Europe elle-même.
Voilà, bien sûr.
Et décidant d'une péréquation ensuite.
Le sujet est d'autant plus en débat que nous sommes dans une période de crise qui relance le rôle de l'Europe dans la coordination des politiques économiques.
Là. Donc, la fiscalité est un révélateur, d'ailleurs, souvent. Alors, on parle soit du réalisme, etc. Mais on voit bien que les problèmes fiscaux révèlent des difficultés difficulté qu'il appartient ensuite, même au jury de droit commun, de résoudre. Là, une difficulté que vous soulignez, c'est le, comment dirais-je, la nature même des entreprises. L'autonomie patrimoniale à laquelle la France est très attachée, la séparation patrimoniale entre la société mère et les filiales. Et là, on comprend bien que s'il y a une activité européenne, cette subtilité de cloisonnement par les personnes morales heurte un petit peu la réalité économique. Et puis le deuxième aspect, c'est ce que je disais au début sur le modèle d'État, c'est que l'Europe existe, mais on ne sait pas très bien ce qu'est l'Europe en tant que telle par rapport aux États et par rapport à la construction traditionnelle, le rôle de l'État, pouvoir de l'État et autres. Donc là, dans tous ces domaines, non seulement on voit qu'il y a des progrès à faire, mais on sent aussi les difficultés. On sent que les États ne sont pas prêts d'abandonner leur pour confier à la Commission.
Et donc sur ce projet, ce projet très, très puissant, hein, d'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés en Europe, techniquement le projet est abouti, il est achevé ou quasiment achevé, donc le projet est vraiment viable actuellement. Il est tout à fait accessible aux chercheurs sur le site de la Commission européenne, sur lequel il y a un site dédié sur l'assiette commune consolidée. L'obstacle maintenant est un obstacle politique. C'est-à-dire qu'il faut réunir l'assentiment des 27 États membres, ce qui sera sans doute très difficile, à moins qu'on prenne sur ce sujet, ce qui peut être envisageable, la voie de la coopération renforcée, qui permettrait à quelques États, 9 États en l'occurrence, de se mettre d'accord sur un projet commun.
Oui, on voit bien d'ailleurs qu'au sein de l'Union européenne se créent des regroupements. On a l'espace Schengen, on a l'euro, on peut aussi avoir une Europe fiscale. C'est même plus à deux, c'est à plusieurs vitesses à ce moment-là. Alors ce qu'on peut quand même espérer, parce qu'il y a un risque d'éclatement, à la fois les 27 États, des regroupements qui se font selon telle ou telle affinité, ce qu'on peut espérer, c'est que tout de même, la Cour de justice elle-même, qui a appliqué de grands principes, qui sont à la fois des principes généraux, y compris économiques, mais avec la Charte des droits fondamentaux, des principes qui vont beaucoup plus loin d'égalité, y compris d'égalité fiscale, d'égalité des armes. Est-ce que ça pourrait être une autre réflexion? Est-ce que le rôle, non plus de la Commission, mais est-ce que le rôle des juges n'est pas à prendre en considération, et non pas évidemment, comment dirais-je, un gouvernement des juges, mais est-ce que la Cour de justice n'a pas un rôle et ne joue pas un rôle? Certainement, je pense que ce sont des éclaircissements que vous allez nous apporter.